Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
Ça isole énormément ce patrimoine.
C'est ça le problème. C'est dire je te donne, mais je t'attache. Donc, mais il faut quand même qu'on se parle parce qu'on a tel et tel sujet. Et est-ce que c'était pas finalement le but de tout ça? Et moi, j'ai pas envie de vivre auto-centré là-dessus.
Depuis qu'on fait Thune Podcast, je m'interroge beaucoup sur ce que j'appelle le silence des héritiers. La part de l'héritage dans le patrimoine de chacun a explosé en France ces 30 dernières années. Et cet argent reste toujours un peu honteux. Ce n'est pas le nôtre, ce n'est pas celui qu'on a gagné par notre mérite. Il ne dit rien de qui on est et de ce qu'on a fait. Comme tous les héritiers que nous avons interviewés, Andrea a pris un pseudonyme. Vous allez l'entendre, elle est potentiellement à la tête d'une très très grosse fortune. Mais vous allez l'entendre aussi, cet argent ne fait pas son bonheur. Et comment oser se plaindre à visage découvert quand on est une petite fille riche? Pourtant, possédée par ce qu'elle possède, ce qu'on lui transmet, elle se démêle dans les filets de cet héritage qui la lie à sa famille. Jusqu'à l'étouffer et sa fortune de géant l'empêche de travailler à sa propre réalisation. Je vous souhaite une écoute bienveillante. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Andrea. Andrea, tu as 35 ans, tu vis dans la région lyonnaise et on peut dire que tu es en quelque sorte gestionnaire de patrimoine, mais surtout tu as une situation personnelle très particulière. Alors on va revenir dessus. Mais j'ai envie de te poser déjà les questions qu'on pose classiquement dans Thune. T'as grandi où, Andrea? Ils faisaient quoi, tes parents?
J'ai grandi en région parisienne. Mon père est de profession ingénieur des mines. Il travaille en fait dans le domaine de l'électricité et du pétrole auparavant. Il travaillait parce que là, maintenant, il est à la retraite. Et ma mère était pharmacienne et elle a rapidement arrêté de travailler à ma naissance.
Vous parlez d'argent à la maison?
Du côté de mon père, pas énormément, puisque c'est pas lui qui m'a éduquée. Et ma mère, c'était quand même assez omniprésent.
Omniprésent?
Ah ouais. Pas l'argent en tant que tel, gagner plus. C'est plus la crainte de l'impôt.
Ah ouais, la crainte de l'impôt, pas du manque.
Non, la crainte de pouvoir payer ses impôts. J'ai vu un revirement, une évolution, c'est-à-dire que ça a été vraiment présent à partir de mes, je dirais, 14 ans. Le nombre de voyages a diminué, puis le discours a changé. Je le vivais pas mal, en fait, parce que j'avais tout ce que je désirais en soi, mais en même temps de manière très simple. Et voilà, on faisait attention, parce que bah, y avait cet impôt qu'il fallait payer...
qui devait paraître très virtuel pour quelqu'un de 14 ans.
Exactement, c'était ça, tout à fait.
L'impôt.
Oui, voilà, exactement, c'était un peu la bête noire. Donc, je suis rapidement partie quand même de la maison. Je suis allée en internat parce que, justement, je vivais quand même en vase clos avec donc mes grands-parents maternels et ma mère. Et a posteriori, après le lycée, j'ai eu la chance d'avoir un 20 mètres carrés en région parisienne. Et donc, j'ai fait mes études rapidement en dehors du foyer familial. Quoi.
Le 20 mètres carrés, il venait d'où?
C'était loué parce que du coup, mon père, à l'époque, versait une pension. Et donc, en partie, ça a contribué en fait, à payer mon logement qui me permettait en fait, de faire mes études. Voilà. Donc, j'ai fait une école de commerce et j'ai pris la moins chère de parce que il y avait à l'époque une école de commerce qui était subventionnée, donc ça revenait à 1500 euros l'année, ça je m'en rappelle.
Et pourquoi t'as pris la moins chère?
Parce que psychologiquement, en fait, je me voyais pas faire dépenser ma famille 10 000 euros l'année, quoi. Psychologiquement, c'était pas possible.
Tu voulais pas trop taxer ta famille, en quelque sorte.
Non, et du coup, à l'époque, je travaillais tous les étés. Je travaillais dans le luxe et en fait, j'arrivais. La première chose que je demandais, c'est quand finissent les cours. Et je travaillais tous les étés. Donc, pendant 5 ans, je suis pas partie en vacances. Je me disais, je suis en train de me faire mon CV pour avoir une carrière derrière.
Ah, donc vraiment un rapport à l'argent quand même très comptable. Hein,
Ouais, c'était... Ouais, ça a toujours été... Ouais.
Tu faisais ton budget.
Ouais. Alors même si, tu vois, finalement, ma chambre, elle a été payée par mes parents, même... Mais dans ma tête, ouais, ça a toujours été... tu gagnes, tu mets de l'argent de côté. On m'a toujours appris à gérer l'argent, entre guillemets, en bon père de famille. Donc, j'estime que ça, ça, c'est ma mission principale, c'est de gérer l'argent en bonne mère de famille. C'est vraiment important pour moi.
J'imagine qu'après ce parcours estudiantin dirigé vers le luxe, tu trouves un bon poste.
Alors, figure-toi qu'au départ, je trouvais pas de travail, quoi. Je trouvais pas de travail parce que t'as la même école de commerce que tout le monde. Et puis, c'est comme tous les jeunes, quoi. Tu galères au démarrage, quoi. Donc, je me souviens être venue un jour vers ma mère en lui disant... En disant, tout le monde fait jouer ses connaissances, faites jouer vos connaissances. Parce que moi, il faut un réseau, hein. Le réseau, c'est hyper important. La chose que je déteste aujourd'hui refaire, je déteste réseauter. Et il s'est trouvé que, du coup, on avait une personne, c'était la personne qui gérait le cabinet de gérant des appartements de mes grands-parents et de ma mère. Parce que du coup, ils ont un patrimoine immobilier, qui connaissait quelqu'un qui travaillait dans une grande maison de luxe et qui m'a permis de rentrer en tant que stagiaire dans cette maison. Et mon premier vrai poste, pareil, ça a été grâce à une locataire qui travaillait dans une autre grande maison de luxe et j'ai eu mon premier CDI comme ça.
Locataire du même patrimoine immobilier de ta famille ?
C'est ça.
On va faire un petit point sur ce patrimoine immobilier qui a, je crois, une grande importance dans ta vie aujourd'hui. De quoi il s'agit ? C'est quoi ce patrimoine de ta famille ?
Alors, mes arrière-grands-parents sont arrivés, on est d'origine italienne, et sont arrivés d'Italie en France. Et en fait, ils avaient quasiment rien en poche, et en fait, ils ont énormément travaillé. Et au fur et à mesure des générations, donc mes arrière-grands-parents, mes grands-parents et ma mère ont acquis un patrimoine immobilier. Alors, ça, c'était pas axé sur l'immobilier, c'était axé avant tout sur une entreprise, puisque quand ils sont arrivés d'Italie en France, il fallait travailler pour pouvoir manger, clairement. Et ils travaillaient en tant que chauffagistes. Du coup, ils ont monté leur boîte et en fait, ils mettaient tout de côté. Ils ont eu la chance d'habiter dans le 16e, mais pour te donner une image, quand ils sont mariés, ils habitaient dans un 30 mètres carrés avec ma mère. Et cette même année-là, ils achetaient un immeuble dans le 92.
Ils sacrifiaient leur vie au quotidien pour investir.
Tout à fait.
Pour faire des placements. Quand toi, tu arrives à majorité, quand tu rentres dans la vie, ce patrimoine familial, tu as une idée de combien il représente ?
Non. Je m'en rendais pas compte. J'avais des œillères, en fait. Je pense qu'ils en avaient parlé, mais en fait, je pense que, pouf, ça sortait de ma tête.
Tu savais
psychologiquement.
Tu savais qu'il y avait du bien, mais tu savais pas combien.
Ouais, non. À l'époque, mon grand-père, il le prenait en souriant. Il aimait ça, en fait. C'est-à-dire que, du coup, il était entrepreneur. Donc, lui, c'était les travaux. Et lui, il le faisait vraiment pas comme une charge. Tandis que le côté féminin, c'était, faut payer l'impôt. C'était tout le côté négatif. Et en fait, ça m'a été introduite par cette vague de négativité, quand même.
La charge mentale de la propriété.
Ouais, un peu.
Des gens peut-être un peu possédés par ce qu'ils possèdent.
Totalement. Aujourd'hui, totalement.
Alors, tu commences ta carrière, ouais, grâce à ces relations un peu éloignées par les locataires et autres connaissances de tes parents et grands-parents, c'est ça ?
Mmh.
Et tu fais une belle carrière dans le luxe, non ?
Non. Non, j'ai mon petit travail. Non, ce que je veux dire, c'est que je suis rentrée, j'étais assistante de quand tu travailles dans la mode. Tu vois, je devais être à 1800, donc tu calcules, quoi.
Et tu vis à Paris ?
Non, je vivais toujours en région parisienne, dans mon 20 mètres carrés quand j'ai commencé.
Tu gardes l'appart en location, mais est-ce que la famille te donne encore de l'argent pour éventuellement faire...
Alors, à cette époque-là, j'ai eu la chance les personnes qui entouraient mes grands-parents ont commencé à leur dire « En fait, vous avez quand même un peu de patrimoine, il faudrait peut-être... » Parce que ma grand-mère était toujours là à dire « Faut jamais que ça soit vendu, jamais de vente, jamais de vente. » Donc, ils ont commencé à leur dire « Si vous voulez pas que ça soit vendu, faut quand même commencer un peu à transmettre. » Parce que plus on vieillit, plus on s'y prend tard, plus c'est compliqué quand même.
Si vous faites pas de donation de votre vivant, vos héritiers seront écrasés par les droits de succession, c'est ça?
Exactement. Et concrètement, à moins que l'héritier soit millionnaire et qu'il ait je sais pas combien d'argent pour payer les droits, le patrimoine sera vendu. Et le patrimoine immobilier commençait déjà un peu pas être une charge, mais je commençais à avoir une double vie dès que j'ai commencé ma carrière. C'est-à-dire que le soir et les week-ends, je faisais agence immobilière.
Tu commençais à t'occuper de gérer le patrimoine?
Je louais les appartements.
Mais comment ça se passe? C'est-à-dire qu'un jour, ta grand-mère ou ton grand-père te parle du fait qu'ils cherchent un locataire et tu commences à prendre les choses en main de toi-même?
Un jour, ils me disent, la personne qui s'en chargeait au sein du cabinet de gérance, de chargeait de louer les appartements, est parti à la retraite. Et donc là, on s'est dit, comment on fait? Nous, le but, c'est que ça tourne, c'est que s'il y ait des gens dans les appartements, c'est normal. Sinon, je vois pas le principe d'avoir des biens et qu'ils soient vides. C'est l'horreur. C'est même triste humainement, en fait.
Et puis, ça coûte de l'argent.
Et puis, il y a les charges fixes à payer. En effet, il y a la taxe foncière à payer. Et puis, t'as l'impôt. Donc, à l'époque, c'était l'ISF. Maintenant, c'est l'impôt sur la fortune.
Immobilière.
Et ça, faut que l'argent rentre, parce que si ça rentre pas, en fait, comment tu fais pour payer tes charges fixes, quoi?
Donc, en tout cas, ils voulaient que ce soit loué et c'est à toi qu'ils en parlent.
Donc,
et
c'est
toi, tu décides de prendre ça en
alors,
main.
Alors, non, ils en parlent, oui, parce qu'on en parlait souvent autour du poulet patate le dimanche. Et j'ai lancé des petites annonces. Et puis après, il y a eu Internet. Et puis, il y a eu de particulier à particulier. Le Bon Coin, on postait les annonces directement dessus.
Donc là, tu commences à vraiment être active sur la gestion au quotidien de tous ces appartements.
Ouais, parce que je me rappelle à l'époque, du coup, j'avais une de mes collègues qui m'appelait et qui me disait « Agence immobilière, bonjour !»
Du coup, tu as découvert combien il y avait d'appartes? De quoi ils étaient constitués, ce patrimoine?
Ouais, alors aujourd'hui, tu vois, tu me demanderais un chiffre en nombre d'appartements, je serais même pas capable de t'en dire un précis, parce que du coup, je pense que c'est pareil, je mets des œillères, en fait. On a une quarantaine, ouais.
Quarantaine d'appartes.
Ouais, donc répartis. Donc aujourd'hui, entre mes grands-parents, ma mère et moi.
Est-ce que déjà à l'époque, tu commences à avoir une idée de combien ça représente?
Non, pas du tout. J'avais pas du tout d'idée. En fait, j'ai commencé à avoir une idée. Donc, je travaillais dans le luxe, en CDI. Je faisais quand même agence immobilière. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu mon mari, et c'est à ce moment-là où en fait on se pose la question du premier achat pour s'installer ensemble, et plus à fréquenter c'était les dimanches après-midi sur le canapé de mes grands-parents. Et là, j'ai commencé en fait à comprendre la valeur des choses, parce que mon mari, qui découvrait le patrimoine, posait des questions, en fait,
que toi t'avais pas posées,
dont j'avais entendu parler mais que je faisais abstraction.
Il y a un côté éventuellement gênant, non, à mettre son nez dans la fortune de ses parents ou de ses grands-parents?
C'est pour ça, en fait. Je pense que, en fait, j'étais plus dans l'action. J'étais plus à dire, en fait, s'il y a un souci aujourd'hui, c'est la location, faut y aller, faut que l'argent rentre. Alors faisons rentrer l'argent, en fait. Moi, je suis plus ils ont un problème, du coup, je vais aller vous aider, on résolve le problème, quoi.
Tu touchais une com sur les transactions que tu pouvais aider
non.
à faire?
Non. Mais en même temps, j'ai jamais manqué de rien. Je veux dire, j'étais leur unique petite fille. Je logeais dans un 20 mètres carrés, c'est déjà énorme, en fait. Je veux dire, ils m'ont payé l'internat. Je me voyais pas aller leur réclamer une com, quoi.
Ils sont du genre à te gâter, à te filer des cadeaux, ou même un petit billet si tu leur dis que tu veux partir en vacances ou que tu as un projet?
À Noël et aux anniversaires, il y avait ce qu'on appelle, dans le jargon de la gestion de patrimoine et des notaires, des présents d'usage. C'est-à-dire que c'est une somme d'argent qu'on te donne, mais qui reste raisonnable. C'est en quelque sorte ce que les parents appellent de l'argent de poche.
Mais des présents d'usage, c'est un terme fiscal?
Oui.
Ah, c'est ça. C'est de l'argent qui pouvait te donner sans qu'il y ait d'imposition dessus.
sans qu'il y ait d'imposition et que, bien entendu, ça reste dans la limite du raisonnable. Voilà.
Ça monte jusqu'à combien, les présents d'usage?
Ça dépend. Donc, c'est un pourcentage de la valeur. Maintenant, je le sais. À l'époque, je ne le savais pas.
Oui, à l'époque, tu croyais que c'était juste des cadeaux.
Oui, à l'époque, j'étais loin de tout ça, quoi. Des cadeaux que je mettais de côté. Hein. C'est un pourcentage de ton patrimoine. Ça ne doit pas excéder un pourcentage de ton revenu. Voilà.
Et tu finis par faire ce premier achat avec ton conjoint?
Oui, tout à fait. Du coup, j'avais de l'argent de côté. Ma mère a proposé à l'époque, pour que ça passe, pour l'achat qu'on voulait faire, qui était à 100 mètres de chez mes grands-parents. Grave erreur. Donc là, forcément, eux étaient ultra enchantés. Elle propose de me faire une donation. On est sur
le
plafond de ce que tu as le droit à tous les 15 ans. On était à 100 000 euros. Quoi.
100 000 euros. Et donc, tu t'endettes.
J'avais à peu près, donc j'avais 150 000 euros d'apport.
Et ton conjoint aussi?
150-200 000. Non, il avait zéro. On avait des quotités différentes, mais on avait le même prêt à rembourser par mois. Donc j'avais 75% de l'appartement et lui avait 25% de l'appartement.
Gros appartement.
Ouais, gros prix. Et moi, clairement aussi, j'ai pu l'acheter parce que clairement, on va pas se voiler la face. Hein. C'est pas avec mes 1 800 euros de CDI dans le luxe que je pouvais pas financer ça, quoi.
Il faisait quoi, ton mec?
Il travaillait dans l'hôtellerie.
Il gagnait mieux sa vie que toi?
Il gagnait mieux sa vie que moi. Il n'avait pas de patrimoine. Alors, 2 ans plus tard, on voulait, parce que je veux pas accuser personne ou qui que ce soit, on voulait une résidence secondaire. Et rapidement, en fait, mon ex-mari commençait à me... ex-mari, hein, commençait à me faire visiter des maisons en me disant « Oui, je vais vendre des propriétés de luxe, tu vas voir, je vais me faire une commission énorme. » Et mon rêve, c'est d'acheter une résidence secondaire.
Il aime bien l'argent, lui.
Et moi, problème, il a un problème. Il veut acheter une résidence secondaire. Et je vais tout faire pour qu'on ait une résidence secondaire. À l'époque, le banquier voyait que de notre prêt, on remboursait bien. Il y avait toujours des présents d'usage que je réinjectais dans mon prêt pour diminuer les mensualités.
T'es jamais à découvert, toi, hein?
Non, jamais. C'est l'horreur.
Oui. T'as toujours de l'argent de côté.
Ouais. Il me laissait gérer l'argent. Moi, je mettais tout de côté. On pouvait rembourser notre prêt de manière anticipée et se dégager un prêt moindre. Et ce qui a fait qu'on a pu acheter la résidence secondaire.
Donc refaire un emprunt.
Voilà. Donc deux ans plus tard. Et en parallèle de ça, mes grands-parents me disent, il va falloir qu'on continue à... Donc la personne qui nous fait la déclaration fiscale nous a dit, faut continuer à donner. Donc si t'es OK, je vais pas dire non, on va te donner un commerce.
Donc ils avaient déjà commencé à te donner des choses avant?
Oui, du coup j'ai un appartement et un commerce en pleine propriété. Donc, je touche les loyers.
Et là, t'as quel âge?
J'avais 26 ans.
Ah, t'es déjà propriétaire de 2 biens qui coûtent, j'imagine, plusieurs centaines de milliers d'euros avec les loyers y afférents. À 26
oui.
ans.
Oui.
Plus ta résidence principale, plus une résidence secondaire.
Ouais.
T'es déjà multipropriétaire alors que tu viens à peine de commencer à travailler en quelque sorte.
Ouais.
Il y a un décalage assez grand entre tes revenus propres et ta fortune déjà personnelle. Via ce que tu as construit familialement avec ton conjoint et ce dont tu viens d'hériter.
J'ai toujours eu ce décalage. L'argent sur lequel je repose n'est pas l'argent que je touche au quotidien. La difficulté des primo-accédants et des personnes qui veulent accéder à la propriété, c'est que moi, j'avais cette chance qui est de dire, si je veux jouer au Monopoly, je peux nantir un premier bien, quoi. Donc, on a acheté la résidence secondaire. On était à 50-50 cette fois-ci. Il avait un salaire plus important. Il avait gravi les échelons.
C'est un mec qui gagne combien à cette époque-là? Il gagne 3-4 000 balles?
Ouais, mais 3-4 000, c'était bien.
Donc vous avez une résidence principale qui doit valoir 500 000 balles, mais qui n'est pas finie du tout d'être payée. Et plus la résidence secondaire.
Voilà.
Là, on a refait 250 000 balles de...
Ouais. Et puis, tout d'un coup, un petit piou-piou, c'est né. Et petit piou-piou, faut payer la crèche. Et puis, petit piou-piou a des besoins. Et puis, en parallèle de ça, mon ex-mari voulait monter à cheval. Donc, il fallait des chevaux. Donc, on a acheté
ça coûte cher, ça, les chevaux.
Ah, c'est l'horreur. En fait, je pense qu'au début, il m'a vendu le truc en mode « Mais tu vas voir, ça coûte pas cher. » Puis après, bah, il faut les barrières. Et puis en fait, bah, possiblement, il faut aussi une petite cabane pour abriter le cheval. Parce que sinon, il est détrempé l'hiver et le cheval va tomber malade.
Tu penses que t'en as eu pour combien de cheval ?
Je sais pas, mais je vais pas calculer. Mais en fait, le truc, c'est que bah, t'as un enfant en bas âge qui est né, tu gagnes pas non plus des milliers et cents. Et il s'est trouvé qu'à l'époque, boum, le fameux commerce... Bah, en fait, se met à plus payer, quoi.
Le commerce, on t'a hérité.
Ouais.
Vous viviez, en fait, déjà pas mal sur ces loyers-là. Tous les investissements que vous avez faits, vous n'auriez pas pu les faire sans les loyers des donations que t'ont fait tes grands-parents, finalement.
Non, et puis parce que... Et puis, en fait, c'est ta carte. En fait, c'est horrible, mais en fait, c'est ta carte de visite, quoi. Tu vas voir le banquier, puis tu lui dis, bah, j'ai ça, ça, ça. Et le banquier t'ouvre ta porte, en fait. Il t'ouvre sa porte.
Est-ce que t'as l'impression que ça a pu changer la façon dont certains ont pu te regarder? Le fait que tout d'un coup, tu aies cette donation, que tu sois plus riche.
Alors non, parce que je m'habillais avec des fringues trouées. Elles achetaient toutes aux ventes privées.
Tes collègues de travail ?
Ouais, des sacs, des trucs. Moi, j'achetais rien. J'achetais rien. Et c'était mes limites à l'époque, tu vois. Je commençais à me dire, j'aimerais bien avoir juste mon taf. Et tu vois, sortirais pas avoir je sais pas combien d'emails, d'appels et tout.
En fait, tu trouvais ça un peu lourd à gérer, tout ce...
Ouais. Et puis, socialement parlant, parce que, bah, en fait, t'as toujours peur que les gens te jugent.
C'est déjà arrivé que les gens te jugent là-dessus ?
Non, parce que tu vois, mes amis autour, ils savent comment je vis.
Ils savent ce que t'as,
etc. Ils savent comment je suis, ils me connaissent. Et en fait, non, ils me jugent pas parce que aujourd'hui, ils reconnaissent que c'est possiblement plus un poids qu'autre chose, quoi.
C'est compliqué de dire c'est un poids d'être riche.
C'est pour ça que très peu de personnes le savent.
Mais pour toi, il y a une dimension poids.
Ah ouais, c'est l'horreur.
Et en même temps, ça t'offre pas mal de facilité.
Tout à fait. En réalité, c'est complètement contradictoire. À l'époque, je le vivais pas encore comme un poids. Mes grands-parents étaient plus jeunes. Non, je le vivais comme une réelle chance, puis je mettais de côté, et après c'était mon choix, hein. J'aurais pu envoyer tout valser, j'aurais pu dire non mais en fait on n'a pas de résidence secondaire, en fait on va voyager, en fait on va un peu profiter, c'était mon choix de continuer à construire, quoi.
À faire exactement comme tes grands-parents finalement.
Ouais.
Et t'as l'impression que tu te mets à vivre comme une bourgeoise ? Je résume avec cette expression, mais
ah bah,
en gros...
Non, pas du tout, non, parce que quand il faut aller entretenir une maison, le ménage des deux trucs, parce qu'on n'avait pas de femme de ménage, non, j'avais pas l'impression, j'avais l'impression de me dire, ouais, on repose sur un patrimoine qui a de l'argent, mais moi, le jour où le commerce est mis à plus payer, bon, c'était un coiffeur en l'occurrence, du jour au lendemain, constat d'huissier, etc., bon bah comment on fait, elle est partie...
C'est toi qui commandes un constat
d'huissier ? Elle finit par sortir, c'était ma mère, parce que moi j'étais au boulot quand même, donc elle m'aide, ma mère aussi, heureusement, mais ça... Alors du coup, il y a eu des décisions de justice, etc. Et j'ai eu la chance que ça a été quand même super rapidement fait. Elle est quand même rapidement partie. Donc ça, vraiment, j'ai eu quand même de la chance derrière. Parce que derrière, il fallait que ça se reloue vite. Parce qu'on avait les prêts, en fait.
Tu rembourses tes prêts, toi.
Ouais, faut que la machine, elle tourne, quoi. Sur le coup, tu te dis, ouais, faut que ça tourne. Tu stresses parce que bah, t'as quand même l'avocat qui te prend des sous aussi, hein, de l'autre côté. Hein, parce qu'il faut payer l'avocat. C'est pas le tout d'avoir quelqu'un qui paye plus son loyer. Il faut payer l'avocat. Mais tu te dis, c'est bien que j'ai mis de l'argent de côté. Tu vois, les prêts en usage, ça sert.
Tu dois combien par mois, à peu près ?
J'avais peut-être 900 euros d'emprunt pour ma résidence principale et 800 pour la résidence secondaire. J'étais à 1700. Tu vois, mon salaire, il était de 1800, hein, pour te dire. Et les charges, 400 euros.
Les charges de
l'appartement de la résidence principale.
Donc, en fait, t'as bien plus que ton salaire en emprunt.
Ouais.
Donc, t'es complètement dans une dynamique d'investissement, ce genre de choses qui fait beaucoup rêver parfois. On voit des posts sur Internet, deviens millionnaire et rentier, investis, achète des apparts, prends les loyers pour rembourser les emprunts. T'es en fait en train de jouer ce jeu qui...
Ouais.
C'est une promesse de richesse.
Et à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout... c'est marrant, il n'y avait pas tous ces entrepreneurs en mode « je vends ma formation ».
Ça te fait rigoler quand tu les vois ?
Ouais, parce que moi, j'ai une charge psychologique qui est rude, en fait. Je suis la seule petite fille, entre guillemets, et c'est à moi que la machine doit tourner, quoi. Et moi, je ne l'ai pas choisi, ce rêve, hein. Mais je l'ai choisi dans le sens où j'ai quand même joué la même carte.
Est-ce qu'il n'y a pas une légère honte de l'héritier ? L'héritier est rarement encensé. Les gens se vantent pas de l'héritage. Il y est souvent un peu pour rien, c'est pas lui qui a gagné cet argent, et on a tendance à glorifier peut-être plus l'entrepreneur, le self-made man, la personne qui a créé sa propre richesse.
Alors, pas une honte, parce que du coup, mais c'était plus, non, vivons cachés, je dis pas...
Donc personne te pose de questions sur comment tu gagnes ton argent, et toi t'en parles pas.
Alors du coup, on n'était pas très social à l'époque. Avec mon ex-mari, je me suis un peu coupée de toutes mes amies au fur et à mesure. Et en fait, on voyait quasiment personne. Donc en fait, j'avais pas tellement de questions. On n'avait pas de vie sociale, donc...
Et lui, il est plus flambeur que toi un peu. Il a des luxes, il a des besoins.
Pas dans les vêtements, pas. Mais en effet, c'est des gros besoins, quoi. C'est les voitures. Donc maintenant, je peux le dire, oui, clairement. Aujourd'hui, il a une Ferrari et un Classe G, donc oui, clairement. Il y a un moment donné, ouais, il m'a demandé de changer de voiture et notre fils était né. Moi, j'avais envie d'avoir une vie paisible avec notre fils, sans se mettre le couteau sous la gorge, quoi. Et il veut rechanger de voiture, prétexte de l'enfant, parfait. L'enfant est né, il faut changer de voiture, la voiture ne sera pas assez grande. Oui, en fait, t'aurais juste pu mettre un coffre de toit, ça passerait.
Vous avez un rapport à l'argent complètement différent.
Ouais. Ouais, et en fait, moi, je l'ai mis, mais c'est là où ça a pas marché, hein. Je l'ai muselé avec l'argent. Et du coup, moi, je le réfrénais. Donc là, pas de souci. C'était son besoin, tu vois. Il voulait changer de voiture. Donc je lui dis oui. Moi, j'avais de l'argent de côté. Je lui dis, je te prête l'argent. Par contre, tu me rembourseras pas l'argent. Il y a pas de souci. Pour moi, je m'étais engagée avec cette personne pour la vie. Donc, voilà. Mais sur le principe, quand même, on fait un acte devant notaire.
Un acte de quoi exactement?
Un acte de prêt entre époux. Les prêts entre époux, c'est la fin du mariage.
Le prêt entre époux, c'est la fin du mariage.
Ouais. En fait, tu comptes, quoi.
Ouais.
Mais si on extrapole ça, tu vois, tu te dis dans ces cas-là, c'est un contrat de mariage en séparation de biens, c'est la fin du mariage.
Tu t'étais mariée en séparation
de biens? Ouais, forcément.
T'avais beaucoup plus de biens que lui.
Bah oui. À l'époque, il m'avait dit, pouf, le contrat, c'est... Et ma famille m'avait dit, tu fais un contrat. Et ça, ils ont bien fait. Et je crois que ça a été quand même une crise sur deux jours. J'avais pleuré,
Ils voulaient
pas. Disant, vous êtes sûr, il faut faire un contrat. À l'époque, moi, j'étais pas du tout dans les sujets fiscaux, etc. Je me rendais pas compte de l'ampleur du patrimoine. Et moi, à l'époque, en tant que telle, j'avais pas énormément de patrimoine à l'instant T. Mais ils m'ont dit, tu fais un contrat.
Vous avez commencé à avoir des disputes éventuellement d'argent?
Non, il y a eu juste ce sujet de voiture où j'ai dit, ça suffit maintenant, on fait quand même un document. Après, on avait plus de problématiques avec le job dans l'hôtellerie, qui est vraiment dur physiquement. C'est compliqué. Franchement, j'admire les gens qui travaillent dans des métiers comme ça, parce que c'est dur.
Et toi, de ton côté, est-ce que le fait d'avoir de l'argent qui vient d'ailleurs, est-ce que tu penses que ça a peut-être fait que tu n'as peut-être pas demandé d'augmentation ou pas pensé à négocier autant
en fait, c'est
salaire.
Juste que psychologiquement, je me mettais pas à 100% dans mon travail. Je me suis jamais mise à 100% dans mon travail parce que quand tu sors le soir, t'as des emails encore à traiter, t'as des visites à faire. Donc quand après mon fils est né, j'avais un peu moins de visites. Ma mère donc commençait à prendre le relais sur les locs.
Y a pas de moment où tu leur dis mais prenez quelqu'un pour s'en charger, vous avez de l'argent.
Alors, il y a eu un moment donné, il y a eu un changement de... Je pense que c'est au fur et à mesure des années, c'est qu'en fait, ça a été beaucoup moins rentable pour les agences immobilières de faire de la loc que de la transac. C'est beaucoup plus rentable de faire de la transac.
Aujourd'hui,
pour quelqu'un, trouver quelqu'un qui est une bonne agence immobilière de relocation, c'est pas évident.
Mais t'arrives à trouver personne de confiance qui puisse faire que, contre une com, il te trouve des locataires et que ça tourne, quoi.
Faudrait que je salarie quelqu'un. Mais le patrimoine est structuré d'une telle façon que pour l'instant, en tout cas, peut-être que... mes enfants, si je le veux, ou peut-être pas, parce que je sais pas si je le veux encore pour eux, mais peut-être pas, au vu de ce que je vis. Il faudrait pouvoir avoir une holding, des SCI, et embaucher quelqu'un, salarier quelqu'un au niveau de la holding.
Donc là, tu te retrouves avec un patrimoine qui n'est pas construit comme ça du tout.
Non.
Il y a juste des apparts. Mmh. Et puis au fur et à mesure, on te fait des donations comme ça.
Non, ça s'est arrêté à 100 000 euros et puis le commerce et l'appartement. Voilà. Donc on s'est arrêté là. Entre-temps, donc du coup, résidence secondaire, moi j'ai pu acheter résidence principale, mon fils né et puis la situation se complique avec mon ex-mari à la naissance de mon fils. Peu de temps après, il y avait pas mal de sujets personnels. l'argent a été quand même la clé de la séparation, puisque moi, je voulais faire une séparation de corps. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais qu'on se sépare temporairement pour reprendre un peu de souffle, parce que ça allait plus du tout. Et là, il m'a dit, si tu demandes une séparation de corps, je demande le divorce. Et par ailleurs, je négocierai une prestation compensatoire. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque.
T'es plus riche que lui, donc il perd en niveau de vie à partir du moment où vous vous séparez. C'est ça, en fait, le truc de la prestation compensatoire. C'est l'idée, c'est qu'au moment de la séparation, lui va se retrouver...
Mais non, parce qu'en fait, il gagnait plus que moi. Et en fait, ça faisait que 2 ans de mariage. Il m'a dit, je négocie une prestation compensatoire sur le patrimoine de tes grands-parents. C'est que là, j'ai dit, c'est fini, en fait. Moi, je te parle de sauver notre mariage, d'une séparation de corps, on allait voir un psy et tout. Toi, tu me parles d'argent, mais en fait, on n'a pas du tout le même langage, on n'est pas en phase. C'est bon, c'est fini, en fait, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Et puis, je pense que son avocate lui a fait espérer monts et merveilles. Puis, en fait, de façon pragmatique, non, je ne roulais pas sur l'or. Non, je... La juge a dit non, il avait un chien qui a été éduqué, parce qu'il adore aussi les chiens, hein, c'est la passion, les chiens éduqués au mordant, qui avait coûté, je crois, 13 000 euros le chien. Hein. Donc non, je... voilà.
Lui, il avait un chien à 13 000 euros ?
Ouais, on avait la mutuelle pour chien.
Grosse dépense chien, combien la mutuelle pour chien ?
Je sais plus, mais c'était 100 balles, un truc comme ça.
100 balles par mois, hein, ouais.
Par mois, ouais, je me suis dit, putain, c'est cher, quoi.
Le cheval, le chien, la voiture... Vous n'aviez pas du tout les mêmes façons de vivre. Et toi, avec des pulls à trous.
C'est ça. Alors du coup, on a divorcé. Il avait des dettes vis-à-vis de moi. En fait, quand on a fait les comptes, du coup, il y avait la voiture, il y avait des travaux que j'avais financés seule. Et finalement, j'ai pu racheter ses parts. Donc en fait, je me suis retrouvée... Et là, franchement, je c'est pareil, j'admire les femmes qui se retrouvent seules avec un enfant, parce que moi, je me disais à l'époque, t'as quand même vraiment cette chance inouïe d'avoir un toit sur la tête et t'es avec ton fils et t'es en sécurité, quoi. Et t'as un travail, parce que du coup, je travaillais, parce qu'il avait été question forcément à la naissance de mon fils que j'arrête de travailler, quoi. Je me suis retrouvée à une conversation où ils se regardaient tous en disant « Ah oui, il faut qu'elle arrête de travailler hein, pour s'occuper. Oui, » Oui, je suis là,
Qui c'est qui disait ça ?
Ma famille et mon ex-mari. Donc, tu vois, j'étais entre les deux en disant « Non, mais en fait, non, ça va pas se passer comme ça. Il faut qu'on fasse rentrer de l'argent. Donc, concrètement, son salaire est pas si élevé que ça par rapport à nos charges et il faut que je travaille, quoi. » Il y a donc, le cheval à nourrir, il y a le chien à nourrir.
En revanche, est-ce que le fait de t'en sortir très agréablement, ça...
Une liberté énorme. J'ai commencé à vivre, en fait. Et puis j'ai commencé à me dire, mais en fait, je vais faire des trucs, quoi.
Mais là, t'as tout le fric pour toi.
J'avais les présents d'usage que je ne divisais plus en deux.
À chaque fois, c'est une brique.
Ouais, c'était ça.
Et donc là, t'as tout l'argent pour toi. Donc t'as tes loyers, ton salaire, les présents d'usage.
Ouais.
Du coup, tu tournes à 3 000 par mois, un truc comme ça.
Ouais.
Et est-ce que tu te mets à profiter de ton argent ? Est-ce que tu t'offres quelque chose ?
Ah ouais, une vie sociale. Je commence à revoir mes amis, quoi. Je commence à m'autoriser à prendre une babysitter pour pouvoir aller voir mes amis.
Et tu te fais des restos ?
Non, des verres. Ça coûte, dans ma tête, ça coûtait trop cher, les restos, en fait. Et puis, tu payes la babysitter. Un verre, c'est très bien, en fait.
Donc là, tu te mets un peu à kiffer. Tu fais des voyages ?
Je fais des petits week-ends, tu vois. Je suis partie au Montgolfiat de Rocamadour. Des trucs atypiques, en fait, où je me dis, allez, hop, tu réserves un petit Airbnb, tu prends le moins cher qui soit.
Ah, t'as toujours ce réflexe-là ?
Ouais.
Est-ce que tu commences à découvrir vraiment l'étendue du patrimoine de tes grands-parents ?
J'ai fait les comptes relativement récemment quand il y a eu les contrôles fiscaux, quoi.
Et là, alors du coup, il s'agit de combien ?
Immobilier, on doit être à 15 millions.
Et c'est énorme, en fait.
Ouais.
Et la situation aujourd'hui, la répartition, c'est quoi ?
Mes grands-parents, au fur et à mesure, donc, ont commencé à faire donc, des donations, mais uniquement de la nue propriété. C'est-à-dire qu'ils ont fait des donations à ma mère et à moi. Donc, ils gardent l'usufruit, ils gardent la possibilité de toucher les loyers.
C'est eux qui touchent les loyers.
Donc, ils touchent les loyers. Et du coup, ils démembrent en partie pour ma mère et en partie pour moi.
Ils démembrent, c'est-à-dire qu'ils vous donnent de temps en temps...
La nue propriété.
Ouais.
Tout a fondu avec... Tout a fondu. Il reste quand même un peu d'argent.
Comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à avoir des liquidités avec 15 millions ? Pour qu'on comprenne.
15 millions d'immobilier ?
Ouais.
Parce que c'est la taxation. Puis parce que
c'est quoi la taxation pour tous les gens qui n'ont pas 15 millions ? Et ils sont nombreux.
Donc, concrètement, ça peut aller jusqu'à 85% de ton patrimoine, la taxation. Et sauf que si tu as des travaux à faire, de la rénovation énergétique, il faut bien que tu le sortes, cet argent.
C'est-à-dire que tous les loyers qu'ils perçoivent, la somme des loyers qu'ils perçoivent est taxée à 80%?
Moi, je dirais, je dirais à 80%.
Parce que c'est du foncier et qu'il y a des cotisations sociales, il y a des charges, il y a des...
Taxe foncière qui a été sur Paris, qui a augmenté de 60%. Puis, tu as aussi, malheureusement, le prix de l'immobilier qui a énormément augmenté. Donc, nous, finalement, l'IFI, en fait, il augmente. Donc, ta charge fixe, ça augmente.
Tu payes combien d'impôts sur la fortune immobilière, ces gens ?
Je sais plus, mais c'est important quand même. Puisque, du coup, ma grand-mère, donc à mes 14 ans, je me suis rappelée récemment qu'à mes 14 ans, dans le discours, ma grand-mère m'avait dit « On donne une Ferrari à l'État, tu te rends compte ?»
Toi, t'es pas encore à l'IFI ?
Non, pas encore. Je suis ultra endettée. Ça ne serait tardé, je pense, l'année prochaine ou l'année d'après.
Ah, quand t'es endettée, tu retires ce que ta dette de...
Alors, pas totalement, t'as des règles, ouais. Mais oui, en bonne partie.
L'IFI, c'est à partir de 1,3 million, je crois.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Et ça commence assez bas. Au début, c'est quelques centaines d'euros. Et puis après, ça monte progressivement.
C'est ça, exactement. T'as des paliers. Et donc, moi, j'ai refait mes calculs. Non, j'y ne suis pas. J'y serai certainement, comme je disais, au vu de remboursement là, de ma résidence principale l'année prochaine ou l'année d'après.
Finalement, t'as fini par quitter le métier dans le luxe que tu occupais ?
En fait, rapidement, le luxe, j'ai arrêté en disant, il y a quand même bien la dimension paillette, des collections, et puis en fait, tu bosses pour une famille, et si tu fais pas partie de la famille, en fait, t'en fais pas partie, quoi. Tu restes salariée à ton niveau et petite assistante, tu vois. Donc, je me suis rapidement rendu compte que je m'étais un peu trompée. Donc, je suis rapidement orientée vers le service client.
C'est quoi le service client ?
Donc, j'étais salariée. Le service client, c'est le SAV. Donc, c'est le SAV, c'est le service après-vente, quand t'as un souci ou... Donc, j'ai fait service client.
Ouais.
Et derrière, je rencontre mon chéri actuel. Et il me dit, je peux choper un poste soit à Bordeaux, soit à Lyon. Et je lui dis, allez, go. Et en fait, la plus belle décision que j'ai jamais prise, quoi. Parce que du coup, je me suis éloignée d'être à 100 mètres de mes grands-parents et puis de ma mère, où t'es quand même hyper en vase clos. Ils vivent dans leur univers hyper centré en disant « Mais comment les gens font pour s'en sortir ?» Oui, mais les gens ne reposent pas sur autant de patrimoine.
Ah oui, ils parlent beaucoup de ça, en fait.
Ah hein. Ouais, ils parlent tout le temps
de
ça.
T'étais vraiment dans un univers
où... Au fur et
à
mesure des années, c'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur. C'est l'obsession, quoi. C'est esclave de ça, quoi. Mais il faut pas vendre, tu vois, il faut transmettre, comment on va faire.
Les impôts. Les locataires. C'était complètement dedans, en fait.
Ah, c'était l'horreur. C'était devenu un deuxième métier sans avoir eu de formation là-dedans. Et puis, c'était une double... Alors, je dis toujours c'était une double vie parce que les gens que j'allais au travail, moi, je suis habillée hyper simplement. Personne ne sait tout ça.
Ton nouvel amoureux, il le sait quand tu le... Tu mets combien de temps à lui dire ?
Il l'a su rapidement.
Tu penses que ça l'a surpris ?
Je pense que ça l'a intrigué, ce décalage. En fait, ce décalage de tu reposes sur je sais pas combien de millions d'euros et en même temps, tu gagnes que ça.
Lui, il est plus classique ?
Il a un super poste, en CDI, il est associé de sa boîte. Non, ça se passe bien. Parce que du coup, j'ai fini par vendre mon appartement en région parisienne. Ah là là, un appartement de vendu, outrage.
Ah ouais, dans ma famille, on fait pas ça.
Ouais,
c'est ça, parce qu'en fait, personne ne vend aucun de ses appartements.
Ouais.
Les 15 millions, il faut pas que ça fasse du cash.
Non, j'ai une petite anecdote. Elle préférait faire faillite, elle préférait manger des pâtes à vie que de vendre de l'immobilier.
C'est devenu un peu maladif, non ?
Oui, tout à fait.
Comment tu vois ça ?
Je pense qu'elle s'est pas émancipée de ses parents.
Tes grands-parents, ils sont vivants. Hein.
Ouais.
Ils sont très, très vieux.
J'espère le plus longtemps possible.
Mais donc, ils sont toujours vivants. Ils sont très proches de ta mère.
Ouais.
Et toi, tu étais très proche de tout ce petit monde-là pendant très longtemps.
Ils s'appellent tous les soirs. Ils se voient limite tous les jours.
Ils parlent tout le temps des appartements.
Alors, moins maintenant. Parce que mes grands-parents, à 95 ans, ils ont décroché.
Et c'est toi qui t'en occupes beaucoup ?
Alors, juridiquement parlant et fiscalement parlant, oui. C'est-à-dire que moi, je commence à tracer le chemin pour que ça puisse être, pour que le patrimoine puisse être restructuré, donc avec une holding et des SCI qui coûtent très cher. Hein, ça coûte très cher en frais.
Pour créer ça ?
Parce que du coup, t'as des frais. Il faut de la liquidité pour faire ça. Tu peux pas te dire un matin, je vais restructurer, je vais tout encapsuler, ouais. Non, ça marche pas comme ça. Non, il faut un commissaire aux apports. Non, c'est
comment t'as appris tout ça ?
Donc, arrivé sur Lyon, j'en peux plus du service client, moi j'ai besoin de cérébralement plus, donc je veux refaire une... Je veux me réorienter et j'ai repris Master 1 Finance Bancaire, Master 2 Gestion de Patrimoine et j'ai fait un certificat en Family Office sur Paris.
Donc là, en fait, carrément, t'as embrassé le destin qui était le tien, quoi.
Toujours l'histoire de « il faut transmettre, comment on fait, quoi ?» Donc, on y va.
Je suis désolée de parler de ça, mais il y a un jour où tous ces gens-là, à commencer par la génération de tes grands-parents, ne vont plus être de ce monde.
Non.
Tu vas être à la tête d'un empire.
Non. J'ai pas envie de l'imaginer. Psychologiquement, tu vois, je...
Bah, tu l'as déjà anticipé avec la façon de penser les transmissions.
Ouais, je sais. Mais en fait, c'est parce qu'on m'a demandé de le faire. Mais tu vois, humainement parlant, en fait, je ne peux pas imaginer que déjà mes grands-parents disparaissent.
T'arrives pas du tout à te projeter dans ce moment où tu vas...
Ah si, ils m'ont fait des crash tests. J'adore le dimanche, on t'appelle... Ton grand-père ne bouge plus. Oui, mais en fait, vous n'êtes pas censé appeler les pompiers, là, plutôt que de m'appeler moi. En fait, pourquoi vous m'appelez moi? Je suis à Lyon. Je tremblais de tout mon corps.
Mais c'était vraiment pour te tester ou...
Ah non, non, c'était... Il pensait vraiment. Et du coup, il m'appelle moi en mode « je vais solutionner le problème », mais non.
Donc, tu ne te projettes pas tellement dans le...
Non, j'ai peur.
Donc, tu n'as pas l'impression d'être riche, en fait?
Non.
Et est-ce que, si un jour, tu en avais la possibilité, toi, tu serais capable... de vendre des appartements?
Je serais obligée pour la restructuration. Je serais obligée pour remettre les holdings, les SCI, je serais obligée. J'aurais pas de cash. Donc, bah, y en aura certains qui seront, entre guillemets, sacrifiés.
Tu dis sacrifiés?
Ouais. Bah, c'est ce qu'on dit dans la famille, quoi.
Ah ouais, c'est le mot... Ouais. On sacrifie des apparts. Mais attends, pardon, il y a quand même un truc. Les 15 millions de patrimoine, ça rapporte pas des sommes colossales en loyer? Là vous,
si.
Êtes, là, vous êtes
si,
quatre
si.
Dessus, quoi.
Si,
donc,
si. Si, ça rapporte des sommes colossales, mais t'as des sommes colossales qui repartent en impôts. Et à refaire, bah, ça aussi, ça prend une fortune. Là, tu vois, on en a pour aller à peu près 40 000 euros pour refaire un appartement qui en vaut 200 000, 210 000, 200. Faut les avoir, les 40 000 euros de côté.
Après, il en vaudra plus.
Non, pas forcément. Pas de 40 000 euros.
Tu pourrais être rentière? Tu l'es pratiquement déjà, là. T'as déjà une partie de tes revenus qui vient de forme de rente?
Alors, oui, psychologiquement, non, parce que j'aime pas ce terme, parce qu'au final, t'es toujours sur le front avec les fois où, en fait, on loue les appartements, c'est 40, 50 appels le week-end, quoi. Rentière, bah, entre guillemets, en fait, on a l'image de rentier en France où tu t'assois sur ton fauteuil et tu regardes ton magazine. C'est pas genre, je fais gérer intégralement par quelqu'un. Ouais, alors du coup, ma mère me disait, pourquoi on s'emmerde comme ça? Pourquoi on vend pas tout? Souvent, elle a des trucs, mais en fait, elle le fera jamais, hein. Et je lui dis, bah ouais, en fait, t'as raison. On vend tout et en fait, on transforme tout en SCPI.
C'est quoi une SCPI?
C'est les sociétés civiles de placement immobilier. Et en gros, t'as des parts où en fait, c'est des sociétés qui investissent pour toi dans des immeubles. Tu touches les loyers et t'as possiblement une fenêtre. Mais tu vois, c'est...
Oui, t'as un bout d'un ensemble immobilier.
Exactement.
Et t'as pas les problèmes de la gestion.
Exactement. Donc je lui dis, bah, à la limite, faisons ça. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est de se dire, bah, j'ai pas envie de m'emmerder, mais du coup, je veux quand même m'emmerder parce que, on a été construit comme ça, quoi. Puis ça n'a plus aucune valeur symbolique pour les enfants, tu vois. Moi, on m'a raconté, tu vois, des histoires d'adresses où mes arrière-grands-parents sont arrivés, ils avaient rien. Bah, en fait, toutes ces légendes familiales, si jamais t'achètes des SCPI, bah, en fait, y a plus de légende familiale, quoi.
Mais ils peuvent écrire la leur.
Comment ?
Ils peuvent écrire la leur, du coup.
Ils peuvent écrire la leur.
Là, c'est vrai que toi, tu es en train de continuer à écrire une histoire que t'as pas choisie.
Ouais, mais qui est en train de s'essouffler, je pense, qui va s'essouffler.
Ça a l'air de te faire beaucoup de soucis. Tu parles avec un grand enthousiasme de
cette
légende.
Parce que, du coup, je me dis, je restructure pour possiblement aussi avoir la possibilité de transmettre. Mais déjà, j'ai pas envie de mettre mes enfants, donc j'en ai deux. Je vois quand les gens, on les met à plusieurs et que c'est forcé, déjà, un mariage, c'est compliqué. Alors
ah, t'as peur qu'ils s'embrouillent entre frères et sœurs éventuellement?
Ouais.
Ah, tu penses quand même très très loin. Hein.
Ouais, mais du coup, j'ai fait. C'est en partie pour ça que j'ai fait mon certificat de family office. C'était pour voir comment ça se passe du côté des grosses familles. Bah, généralement, t'as quand même des conflits, quoi.
T'as des embrouilles, ouais. Est-ce qu'il y a un moment où tu vas kiffer, tu crois? Tout ce bel argent familial. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se faire plaisir avec tout ce bel argent familial?
Je sais pas, non, je pense pas. Ça veut dire quoi, se faire plaisir avec ce bel argent familial? Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de dire, demain, je vais m'acheter une Porsche, une Ferrari. En fait, indirectement, je me fais plaisir. J'ai un confort de vie énorme, quoi. Je suis chauffée, j'ai un toit. Je pars pas à l'étranger faire des super voyages, mais j'ai une enfant en bas âge et j'ai encore...
Tu dois avoir du temps aussi, quand même. Est-ce que ça t'offre pas du temps?
Alors si, j'ai fait mes études qui m'ont pris 3 ans. Moi, il y a quand même tous les papiers de rachat, de notaire, où en fait on me demande régulièrement plein de papiers, il faut que je sois dispo. Et j'avoue que j'ai plus le courage en fait d'avoir une troisième vie. En tout cas, temporairement, il va falloir que je refasse quelque chose dans une autre branche. Je ne sais pas. En ce moment, la grosse question est de dire est-ce que je refais quelque chose et j'ai mon petit métier à part entière.
Est-ce que c'est pas compliqué de travailler quand on n'a pas forcément besoin d'argent? C'est quand même une vraie question, hein.
J'aimerais bien un truc qui me vide la tête. Tu vois, aujourd'hui, j'ai tellement pensé ce patrimoine à le restructurer et tout que j'ai clairement besoin d'un truc qui me vide la tête, quoi. J'ai besoin d'un truc simple, en fait. Alors, ça m'apporte un super confort pour le mercredi, quoi. Clairement, ça me permet d'emmener mon fils faire son conservatoire.
Ouais, là, t'es dispo, quoi.
Ah ouais, ça, c'est énorme. Et puis, du coup, ça me permet de leur payer ça, quoi.
Tu peux payer des vacances, tu peux payer des cours.
Pour l'instant, on part pas en vacances, on s'autorise pas. Mais voilà. Si, tu vois, on a fait un week-end, j'ai pété un câble avec. Je me suis dit, attends, t'as épargné pendant je sais pas combien de temps. Et on est parti dans un hôtel de luxe avec mon mec deux nuits.
Tous les deux?
Ouais. Ouais, ouais. Tu vois, ça aurait été un Airbnb à 10 balles. C'est chouette le luxe, mais je veux dire, les gens qui te regardent de bas en haut, en mode oh là là, t'as pas ton Kelly, t'as pas ton Chanel. On s'est mangé un chinois le deuxième soir et un McDo le premier soir en regardant les influenceuses qui se dandinaient devant leur mec avec l'appareil photo. Ça, c'était le meilleur des trucs, quoi.
Tu sais très bien que tu vas pouvoir vivre de tout ce patrimoine et tu pourrais très bien ne pas chercher une carrière à nouveau ou ne plus travailler peut-être. Est-ce que tu en serais capable? Est-ce que tu en as envie?
Est-ce que j'en ai envie? Aujourd'hui, je ne sais pas. Et moi, je me suis jamais dit, mon but, c'est d'être, je ne sais pas, à la retraite ou rentière. Mais oui, en fait, c'est construit de telle manière que, possiblement, je pourrais ne plus travailler, en fait.
Ça n'a pas l'air de te faire plaisir du tout.
Non, c'est là où c'est compliqué. C'est qu'en fait, j'ai fait des études. Du coup, j'en suis à 7 ans et demi d'études. J'adore apprendre. Ça isole énormément, ce patrimoine.
Ça isole?
Ça isole. Ils sont dans leur petit compte, dans leur petit truc, vivons cachés. Et puis, ce qu'on se rend compte, c'est que quand il n'y a que ça qui compte, finalement, on a peur qu'on nous le pique. Et moi, je n'ai pas envie de vivre auto-centré là-dessus, quoi. Donc, j'ai mes enfants qui sont ma plus grande joie. J'ai mon conjoint, donc on a une vie sociale super. On a des amis super qui nous entourent. Mais j'avoue que j'ai ce risque, malheureusement, de devenir comme eux, quoi, de vivre en vase clos et de penser qu'à ça. Mais j'aimerais possiblement m'ouvrir à d'autres choses.
Et puis évidemment, tu peux pas te plaindre.
Non.
Ah bah ça.
Bah non. La situation de la France, les gens au quotidien, puis je vois les métiers, la pénibilité de certains métiers, voilà.
Puis non. 15 millions, quoi.
Non. Et puis, ouais, mais ça, tu vois, je le réalise même pas, en fait. Mais ouais. Non, mais il est pas à moi, en fait. C'est à mes grands-parents. Mes grands-parents, ils sont toujours en vie, quoi. Je les aime et ils vont vivre jusqu'à 120 ans, quoi. Laissez-les tranquilles. Il faudrait quand même avoir un métier à côté parce que c'est important de garder justement un pied sur la terre ferme.
Ça te prend combien de temps, on va dire cette année, l'année d'avant, toute la gestion du patrimoine familial?
J'étais censée avoir un gros mi-temps jusqu'au jour où ma mère devait lever le pied. Et puis au moment de le faire, elle n'a pas levé le pied des locations. Je me suis dit non, mais en fait, je ne vais pas réussir à travailler avec elle.
Parce qu'en plus, en fait, voilà, c'est l'argent, enfin le patrimoine, vous lie tous, toute la famille, de façon très resserrée, quoi.
C'est ça le problème. C'est dire je te donne, mais je t'attache. Donc, ah, mais il faut quand même qu'on se parle parce qu'on a tel et tel sujet. Mais oui, mais si j'ai plus envie de te parler, en fait. Et est-ce que c'était pas, finalement, le but de tout ça? Et c'est ça qui m'a un peu dur. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir une activité propre à moi, tu vois.
Voilà, c'est terminé. Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production est assurée par Frédéric Fortuny sur une musique d'Emma Pixon. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter partout en France. Merci à vous et surtout n'hésitez pas à nous faire des retours, des critiques, à nous envoyer des messages ou à laisser des commentaires sur les réseaux. On répond toujours. À bientôt. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thune, vous savez qu'on a besoin de thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thune Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.